Phil PM. Politique.
Stephen Harper, lui, a attendu. Pourquoi avoir moins de cœur que Stephen Harper?
S'il y a des gens qui n'ont pas eu de cœur au cours des 15 dernières années, c'est bien le Parti libéral du Québec. On pourrait faire la litanie des actions que vous avez posées qui ont fait mal à la population. Les services dans les écoles aux enfants les plus vulnérables étaient coupés. Il était où votre cœur là-dessus?
La loi ne l'oblige pas à cesser de traiter les dossiers. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de l'arrogance?
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Je regarde ça d'ici et je pense que ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du premier vrai débat qu'on a eu dans ce nouveau Parlement. Là, aujourd'hui, là, je vais vous dire, Sébastien Proulx, le leader parlementaire du Parti libéral, parlementaire d'expérience, il était là dans le temps de l'ADQ, je vous le rappelle, et Jolin Barrette, le ministre responsable du projet de loi sur l'immigration, qui se renvoie la balle puis qui discute ferme, là. Et pour analyser un petit peu ce qui se passe, là, on parle évidemment de l'immigration puis du dossier des 18 000 demandeurs là, qui a été annulé. Paul Journet, éditorialiste à La Presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Bonjour.
Vas-y, Paul. Écoute, la clip là, de Proulx qui dit « Pourquoi vous avez moins de cœur que Stephen Harper », ça fait mal.
Oui, ça fait mal. Juste expliquer à quoi il référait. Au fédéral, eux aussi, ils ont changé leur système pour sélectionner les immigrants. Et en changeant le système, ben, ils ont laissé tomber tous les dossiers qui n'avaient pas été traités sous l'ancien système et ils ont indemnisé les demandeurs. Donc, c'est ça que Québec fait aussi. Puis Québec disait, ben voyez, on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Le fédéral aussi l'a fait. Et les libéraux disent, OK, ben si votre exemple d'une personne qui a du cœur, c'est Stephen Harper, ben êtes-vous certain que c'est votre référence? Mais écoute, c'est un dossier...
Non, mais ce que j'avais compris, c'est que Stephen Harper avait quand même fait quelque chose de plus que le gouvernement de la CAQ. Dans la question, j'entends que Stephen Harper avait été peut-être plus patient, avait donné plus de temps. Non, c'est pas le cas?
Bien, c'est parce qu'on sait pas, j'ai de la difficulté à répondre à ça parce qu'on sait pas encore exactement ce que va faire la CAQ. C'est le genre de dossier où plus les gens en parlent, moins on comprend, ou à tout le moins, plus on en parle, plus on réalise qu'il y a plein de détails, plein d'obstacles auxquels on n'avait pas pensé. Mmh. Tu sais, l'immigration, c'est très technique, puis quand tu essaies de résumer ça avec des slogans comme « on va en prendre moins, mais on prendre soin », c'est vendeur pour le marketing politique, mais dans le détail, c'est bien compliqué, particulièrement pour les dossiers qu'on va laisser tomber. Puis écoute, sans aller dans les micro-détails, je te dirais que le gros problème, c'est que tu as 18 000 dossiers qu'on va déchiqueter, oui. Mais parmi eux, tu en as près de 4 000 où c'est des gens qui sont déjà au Québec, soit parce que c'est des étudiants étrangers, mm-hmm. ou des travailleurs temporaires. Dans les deux cas, ils ont obtenu un permis du fédéral d'une durée limitée. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va être obligé de les renvoyer dans leur pays parce qu'ils n'auront pas réussi à renouveler le permis du fédéral et ils n'auront pas réussi à se faire accepter par Québec sous le nouveau système?
Voilà, c'est très bien résumé. Parlons autre chose, Carl. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus?
Écoute, la réalité, c'est que pour le gouvernement caquiste, là, ce qui semble se coller à eux comme étiquette, c'est pas des bons mots. On parle de traitement inhumain, cruel, de manque d'humanité.
Pas de cœur, hein, le pas de cœur.
Pas de cœur,
ouais,
c'est ça. Ouais, je sais bien qu'on est la Saint-Valentin, là, mais c'était pas des souhaits de la Saint-Valentin tantôt qu'on entendait.
Non.
Puis c'est parce que c'est pas 18 000 dossiers dont on parle. C'est 18 000 femmes, hommes, enfants, des familles. C'est de ça dont on parle. C'est pas des dossiers qui flottent, là. C'est du vrai monde, ça.
Ouais, ouais.
Pour des traites de main.
Par contre, moi, si j'étais la CAQ, je dirais aux libéraux, ah ouais, ben vous, les 18 000 dossiers, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est vous qui avez changé le système. On est d'accord que c'est une bonne idée de changer le système, de sélectionner les immigrants, mais les 18 000 dossiers, c'était quoi votre solution à vous?
Mais non, puis l'autre affaire, c'est que c'est toujours bien les libéraux qui ont laissé la pile monter. Les 18 000 dossiers, là, ils étaient là quand la CAQ est arrivée.
Oui,
que je vais vous dire, les libéraux, ils m'ont toujours fasciné là-dessus. Ils ont une capacité d'adaptation qui est vraiment phénoménale. Ils viennent de se faire botter derrière le retour dans l'opposition après presque 10 ans au gouvernement. Écoute, ils sont capables de se présenter, de s'envelopper dans une espèce de sentiment d'attitude très moralisatrice, comme si c'était pas eux autres qui étaient responsables de l'accumulation des 18 000 cas. Puis écoute, ils se présentent là, ils ont aucune gêne. C'est fascinant.
C'est toujours plus facile d'avoir le cœur sur la main quand t'es dans l'opposition. Quand tu es au gouvernement, là, tu dois prendre des décisions, puis c'est là que tu peux te faire traiter d'inhumain, mais pour les libéraux, c'est comme un caméléon, là, ça va de quoi? Ça coule de source.
Maintenant
le cœur sur la main.
Ils sont très habiles. Parle-nous un petit peu de maternelle 4 ans. Le projet de loi a été déposé. Paul, en résumé, parce qu'on vient de faire une tribune là-dessus.
Écoute, en quelques mots, le projet de loi va créer un droit pour avoir la maternelle 4 ans, parce qu'en ce moment, la maternelle 4 ans, elle n'est offerte qu'en milieu défavorisé. Là, ce que les caquistes veulent faire, c'est les offrir dans toutes les commissions scolaires. Ils vont faire ça par étapes. Ça devrait commencer vers 2021. La logique, c'est que les troubles d'apprentissage, c'est pas seulement chez les gens qui viennent de milieux défavorisés. Tu en as dans toutes les classes de la société. Donc, ils veulent en faire un programme universel. Nuance importante, ils veulent pas forcer la fréquentation. Ils veulent forcer les commissions scolaires à l'offrir. Mais le choix demeure pour les parents. Par contre, il y a deux grandes questions qui demeurent. Un, est-ce qu'il va avoir assez de place? Deux, est-ce qu'il va avoir assez de profs? On sait qu'on apprenait dans Le Devoir ce matin que les universités sont en train de créer des nouveaux programmes pour des suppléants, tellement qu'il manque de profs pour que des gens enseignent sans brevet. Puis pour ce qui est des places, mon collègue Tommy Chouinard nous apprenait ce matin que le ministre Roberge, il parle aux commissions scolaires, puis il n'y en a aucune qui est sur le point d'ouvrir des classes en maternelle 4 ans parce qu'ils n'ont déjà pas assez de classes pour les niveaux primaires et secondaire. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à régler ce problème-là de place et de prof?
Voilà, très bien résumé. On s'en va revoir notre ami Carl. SNC-Lavalin qui continue à faire les manchettes. Ça fait 7 jours maintenant que le Globe and Mail a fait ses révélations en première page de ce journal. Donc, d'ingérence alléguée de la part de Trudeau et de son entourage pour obliger, en tout cas, ils auraient fait des pressions pour que la ministre de la Justice, dans le fond, s'assoie avec SNC-Lavalin pour négocier une entente hors cours. Là, on en est où dans ce dossier-là? Parce que là, qu'est-ce que tu veux, le comité, ils sont réunis hier, puis finalement, ils sont seulement 3 qui seront entendus. La ministre sera pas entendue, les conseillers de Trudeau seront pas entendus. Fait qu'on en est où, là?
Bien, c'est ça, le comité de la justice s'est rencontré. On pensait peut-être que les libéraux allaient tout tuer dans l'œuf, mais ils ont décidé de faire une étude. Mais on a dilué tout ça, comme tu viens de le mentionner. Là. Ceux qu'on va entendre, c'est le ministre de la Justice actuel, David Lametti, son sous-ministre, le greffier du conseil privé. Mais Jody Wilson-Raybould, on ne l'entendra pas, même si l'opposition a tenté d'amender ça. Écoute, on a un extrait de qu'est-ce que ça avait de l'air hier au comité de la justice. Écoute bien ça.
What I think most Canadians would see is a pretty reasonable amendment. If you're open to hearing from Ms. Wilson-Raybould, then vote for it. If you're open to hearing from Mr. Butts, then vote for it as well as Mr. Bouchard. If you're not, then you'll vote against it. And those actions will speak louder than your words.
Chair, I'd ask for a recorded vote and let the record show that anyone who votes against Mr. Cullen's very reasonable amendment is voting in favor of a cover-up.
Okay, that statement is unbecoming of you, Mr. Cooper.
Oui, alors cover-up, donc tentative d'étouffer.
Oui. Donc, on a entendu dans l'ordre le député néo-démocrate Nathan Cullen qui a été très bon par ailleurs hier. J'ouvre une parenthèse, il y a même des gens qui chuchotent. Tu sais, si lui était chef, peut-être que le NPD irait mieux.
Oui.
Je ferme la parenthèse. Oui, il était très bon hier, Cullen.
Oui, parce qu'il se comporte comme un espèce de procureur. Hein?
Ton était parfait. Il posait les bonnes questions. Oui. Il disait, vous avez le pouvoir, on a le pouvoir de faire la lumière là-dessus. Et son amendement là, d'amener les gens qui étaient impliqués personnellement dans ce dossier-là était très raisonnable. Le conservateur Michael Cooper a embarqué par la suite pour dire si les gens qui votent contre ça, c'est parce qu'ils veulent absolument mettre le couvercle sa marmite, hein, c'est cover-up.
Mm-hmm, mm-hmm.
Et là, le président du comité, Anthony Osfeiler, qui est un libéral, a dit attention, vous allez trop loin.
Oui, c'est hors d'ordre.
Oui, hors d'ordre, exactement.
Oui, c'est ça. Mais les noms qu'il nommait, Colin, là, les noms, c'est le secrétaire principal de Trudeau, Mr. Butts, qui à certains égards, diront certains, est le vrai premier ministre du pays. Là, il y en a qui lui donnent effectivement beaucoup, beaucoup de pouvoir et même le dernier mot sur plein de dossiers parce que ce qui commence à circuler de plus en plus, c'est que Trudeau n'est pas toujours très, très décisionnel. Et donc, c'est Butts qui prend les décisions à sa place. Ça circule de plus en plus.
Ça circule depuis longtemps et ça crée des remous au sein du caucus. Là, il y a des gens qui commencent à être tannés de ça. Parce qu'évidemment, ils sentent que les décisions sont prises par un petit groupe dans l'entourage de Justin Trudeau et que Justin Trudeau, finalement, fait ce que ces gens-là lui disent de faire. Est-ce que c'est le cas? Je ne le sais pas. Je ne suis pas dans ces conversations-là, mais disons que c'est très persistant comme bruit qu'on entend à Ottawa.
Oui, exactement. OK, très bien. Je retourne à Paul parce que tu veux nous parler de cette pétition pour embaucher la montagne. Je ne sais pas si tu as entendu l'entrevue que j'ai faite avec le président du syndicat. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
Seulement que tous les partis de l'opposition vont se réunir cet après-midi pour demander conjointement que l'agronome soit réembauché.
Pourquoi le gouvernement ne le fait pas, Paul Journet? Parce que j'ai posé cette question-là à voix haute tout à l'heure. Pourquoi il ne le fait pas?
Deux hypothèses. Un, parce que le syndicat fait appel de la décision. Deux, parce qu'ils ont demandé à la protectrice générale de faire rapport là-dessus. Ce qu'elle a accepté. Donc, peut-être qu'ils vont vouloir attendre la fin de ces démarches-là. Mais tu vois que la pression, elle est forte pour qu'on le rembauche.
Te dire une affaire, là. T'es au gouvernement, là. La première, tu sais, ça arrive, la première journée, tu dis, c'est une affaire, ça, tu sais. Ça va durer 24 heures, peut-être 48 heures. On se rend samedi, puis à samedi, on n'entendra plus parler. J'étais certain, moi, là, qu'à la CAQ, il doit y avoir du monde qui se dise, si on avait su que ça allait durer si longtemps, on va te dire une affaire, on t'aurait géré ça autrement. Puis la recommandation du sous-ministre de le foutre à la porte, on l'aurait peut-être challengé un petit peu plus, puis on ne serait peut-être pas mis dans la misère comme on l'est présentement. Parce que ce qu'on comprend, c'est que c'est une recommandation de la haute fonction publique, enfin de la haute fonction, de la fonction publique dans le ministère de l'Agriculture, là, c'est eux autres.
C'est pas la
là.
Décision du ministre lui-même, c'est l'administration.
Mais non,
même
c'est
si
ça.
Au début, lui a pris crédit pour cette décision-là. Ben oui.
C'était ça l'erreur.
Il a fait son meilleur culpa. Ben oui, c'est une erreur. Quand il a fait son meilleur culpa, à ce moment-là, il aurait dû mettre fin à l'histoire en réembauchant l'agronome.
Oui, exactement. C'est un bon conseil, Carl Bélanger, consultant stratège. Merci.
Salut.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Merci.
Merci, Bernard.
On se reparle demain. On continue tout de suite après la pause. Musique Plus, notamment, qui sort des ondes. Ça a été quand même une chaîne importante. Les informations s'en viennent. On se reparle après.